Initiation à la lecture de l'écriture sainte, Père Philippe, 24 décembre 1982, Rimont.
Bon, je regarde ça. D'abord, je vous avertis, demain, je serai là toute la journée, hein. Je dis ça pour ceux qui sont sur la liste et qui se disent « Demain, je serai là toute la journée, comme il n'y a pas de cours, c'est royal. Hein. » Et après-demain aussi, il n'y a pas de cours non plus. Alors évidemment, la matinée, je serai là pour la matinée de Saint-Jean. Et puis je partirai après, à cause de la retraite de l'Alliance, c'est-à-dire de Jean Vanier. Vous savez bien que... On a une alliance avec Jean Vanier. Et Jean Vanier est allié avec le ciel, alors c'est difficile. L'alliance des pauvres, Jean Vanier, ça c'est l'alliance des pauvres. Alors on est forcé d'être allié avec les pauvres, il n'y a pas moyen autrement. Autrement, je serai là, donc normalement, je vais à Brancion cet après-midi, mais le reste du temps, je reste ici. Du moins, à moins que la Providence m'oblige d'aller. Normalement, je reste ici demain toute la journée et après-demain aussi. Avant la chute, Dieu considère que tout ce qu'il a fait est très bon. Valde bonum. De plus, il donne comme nourriture aux animaux la verdure des plantes. Comment expliquer alors le désordre présent dans l'univers? Mais ça, c'est une question très délicate. Allez voir saint Augustin. Les catastrophes naturelles, inondations, tremblements de terre, sont-elles dues uniquement à la potentialité de la nature matière? Et comment se fait-il maintenant que les animaux se mangent entre eux, les gros, les petits, et les petits empoisonnent les gros? Ça ne marche pas. Ah, le technicien. Ah, c'est pas vous. Ah, oh, c'est sûr. Il faudra me montrer, parce que signal d'alarme. Le péché de l'homme serait-il l'unique cause de ce désordre? Ce qui impliquerait qu'avant la chute, tous les animaux avaient été végétariens. Très difficile question. Est-ce que le démon n'y serait pas pour quelque chose? À cause de sa haine pour l'univers physique, en admettant que Dieu lui ait laissé un certain pouvoir sur celui-ci. Exemple, d'après Marthe, le démon, Marthe Robin, le démon aurait provoqué le petit tremblement de terre de 1937 pour tenter de détruire le foyer de charité. Oui, c'est toujours très très délicat, hein, les herméneutiques des saints, par rapport à certains tremblements de terre. Parce que ce n'est pas nécessairement physique. Ça peut être autre chose. Le démon peut savoir qu'il y aura un tremblement de terre et qu'il s'en sert pour nous faire peur et pour des choses comme ça. C'est très délicat. Quel est le pouvoir du démon sur notre univers? Alors, c'est très très difficile cette question-là. Je crois qu'au fond, on ne pourra jamais savoir exactement. Ce qui est sûr, hein, alors ça, je crois qu'il faut... prendre les choses sûres, et puis après les choses moins sûres. Hein. Ce qui est sûr, c'est que Dieu avait réalisé au point de départ un univers entièrement ordonné à son chef-d'œuvre. Et ça, tous les pères de l'Église sont d'accord. Donc là, il y a vraiment quelque chose, je crois, qui est très profond et qui va très loin. C'est que tout est ordonné, premier récit de la Genèse, de la création, second récit. Vous voyez, Dieu réalise un univers pour permettre que l'homme puisse s'épanouir sur la terre. Mais Dieu crée l'homme tout de suite avec la grâce et la justice originelle, où il y a une harmonie parfaite entre l'ordre surnaturel et l'ordre naturel. Et donc l'ordre naturel est ordonné à l'ordre surnaturel. Et toute la nature est ordonnée par le fait même à l'homme, qui est roi de l'univers, hein. Adam est roi de l'univers. Il est roi de l'univers dans le sens qu'il doit dominer même sur les moustiques. Alors à ce moment-là, vous voyez, c'est quand même assez c'est vaste, dominer sur les moustiques, va leur permettre de dire « taisez-vous » quand ils chantent un peu la nuit, n'est-ce pas ? Et leur dire « se taire » et ils auraient obéi, ça c'est sûr. Un dominium de l'homme qu'on ne peut pas imaginer. Ce que c'est. Alors certains disent aujourd'hui qu'il reste quelque chose de ce dominium sur certains dons préternaturels. C'est possible, je n'en sais rien, c'est pas dit dans l'Écriture. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette harmonie voulue par Dieu, au point de départ. Et quand Dieu dit « valde bonum », c'est l'artiste divin qui trouve que c'est tout à fait bien. Ce qui n'empêche pas la remarque de saint Thomas que Dieu aurait pu réaliser un monde plus parfait. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas dire du tout que c'était nécessaire et que c'était le meilleur de tous les mondes. Non. Saint Thomas est très net là-dessus. À la différence de Leibniz. À la différence de certains qui disent là, Dieu a créé un monde qu'il a voulu tel qu'il soit pour manifester sa grandeur, manifester sa gloire, manifester sa sagesse, manifester sa bonté. Autrement dit, il y avait plusieurs possibilités. Je ne dis pas que Dieu avait des plans divers d'architecte et puis qu'il a opté pour là. Non, c'est pas comme ça qu'on doit voir. C'est à l'intérieur de cette grande thèse théologique des possibles de Dieu. Et les possibles de Dieu représentent quelque chose d'infini. Hein. C'est évident, la toute-puissance de Dieu. Pour pas imaginer ce que c'est que la toute-puissance de Dieu, ça dépasse absolument tout ce que nous pouvons. Et donc, il faut rester dans cette vision-là. L'univers était valde bonum. Mais Dieu aurait pu réaliser quelque chose qui soit encore plus parfait. Ça, je crois qu'il faut toujours le dire. Il faut toujours le maintenir, parce qu'autrement, on ne comprend pas la gratuité de notre univers. On ne comprend pas que ça représente un choix libre et que l'acte créateur de Dieu est un choix libre de Dieu. Et c'est pour ça qu'il crée par sa parole, pour bien nous faire comprendre que c'est un choix libre, par sa parole, voyez. Notre parole n'est pas créatrice. On le voudrait bien. Si notre parole était créatrice, on pourrait faire des tas de choses. Hein. Notre parole n'est pas créatrice, tandis que la parole de Dieu l'est. Alors il y a la parole et le geste. Et c'est très important de voir toujours cette complémentarité de la parole et du geste. Le geste montrant davantage que c'est la gratuité de l'amour. Le péché, ce que nous avons essayé de voir la dernière fois, le péché d'Ève et d'Adam. Elle en donna ensuite à son mari qui était avec elle. Alors, c'est évident que là, il y a quelque chose, je comprends très bien qu'on peut l'interpréter de diverses façons. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que le péché a fait une rupture. Le péché, selon la majorité des pères de l'Église, selon saint Thomas, au terme de toute cette recherche du père de l'Église, le péché d'Ève est un péché d'orgueil. Il ne pouvait pas être un péché selon la concupiscence de la chair. Certains l'ont dit, mais ça n'a pas de sens. Étant donné la perfection d'Adam et Ève, étant donné le dominium de la grâce sur le point de vue de la nature. Donc ça ne pouvait être qu'un péché d'esprit, un péché d'orgueil. Du reste, le démon, on comprend très bien, agens, agite, simile, sibi. Hein, n'oubliez jamais ce grand adage. Un agent agit semblable à ce qu'il est. Le démon ayant péché par orgueil n'a qu'un seul désir, c'est de nous attirer vers l'orgueil. Faire de nous ses fils d'adoption, des enfants d'adoption. Il n'a pas de fécondité, il veut en avoir par l'orgueil. On voit très bien ça, la stérilité du démon. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire, on y reviendra là-dessus, parce que ce sera un grand thème à regarder ça, à travers l'Écriture. Je suis persuadé que la stérilité qu'on voit comme conséquence du péché est une image de la stérilité du démon. Il y a quand même là quelque chose qui est très important à saisir. Et alors on comprend très bien, par jalousie, c'est la jalousie, il veut à tout prix attirer les petits benjamins, les petits derniers, puisque nous sommes les derniers, les benjamins, attirer dans son sillage. Et les attirer dans son sillage, c'est de faire qu'ils soient bien heureux par leur intelligence et l'orgueil, c'est-à-dire faire passer l'intelligence au-delà de l'amour, et ne plus faire que l'amour soit mesuré par l'amour, mais que l'amour soit mesuré par l'intelligence. Le péché d'orgueil, hein, qui est quelque chose de fondamental en nous. Hein, ça, on connaît très bien ce que c'est. Pas besoin de chercher longtemps, encore une fois, pour savoir quel est le péché dominant de chacun d'entre nous. C'est l'orgueil. Alors c'est plus ou moins caché. Suivant qu'on est plus ou moins astucieux. Mais ça, alors c'est plus ou moins caché. Mais au fond, c'est le péché d'orgueil, tout simplement. Et puis après, si l'orgueil est moindre, c'est la grosse vanité. Alors ça, c'est plus, vous voyez, quand on est adolescent. L'âge mûr, c'est l'orgueil. Adolescent, alors ce qui reste d'adolescence en nous, c'est la grosse vanité. Alors quand on ne s'occupe pas de nous, on se met à aboyer. Une manière pour qu'on s'occupe de nous. Bon. Alors ça, c'est la grosse vanité. Et puis quand la vanité est encore plus bas, c'est la concupiscence. On voit très bien la concupiscence selon la chair. Trois fautes, hein, conséquences du péché. Le péché introduit un déséquilibre dans l'homme. Et ce qui est très curieux, et c'est ce que nous allons voir maintenant, le péché introduit un déséquilibre dans l'homme. Un déséquilibre qui va se répercuter entre l'homme et la femme, alors que la petite communauté première était en harmonie parfaite, et le cosmos lui-même va avoir une répercussion. Voilà ce qui nous est montré. Le cosmos lui-même va y avoir une répercussion. Comment se fait cette répercussion? Je n'en sais rien, et vous non plus. Alors on peut émettre des hypothèses. Vous savez bien, c'est connu ça. Je me souviens d'avoir été au Rwanda. Le Rwanda est un petit pays merveilleux, extraordinaire. On n'a pas le droit de chasser. Alors évidemment, les animaux deviennent très très proches. Très proches. Ça ne veut pas dire que le loup lèche l'antilope. Hein? Non, non, non. Il le lèche très bien. Surtout la lionne, parce que c'est la lionne qui tue l'antilope pour le donner au mâle. C'est elle qui tue. Très curieux, les mœurs des lions. C'est extraordinaire. Et c'est intéressant de voir, parce que le lion vit en famille. C'est pour ça qu'il est le roi des animaux. Parce qu'il vit en famille. Enfin, c'est royal de vivre en famille. Alors, il vit en famille. Et c'est la lionne qui tue. Et le lion, lui, a la dernière part, c'est-à-dire la part royale, hein, que les autres n'ont pas le droit de toucher. C'est la part royale qui se gâte. Alors, comment se fait-il que les gros mangent les petits dans le domaine animal? Est-ce que c'est une conséquence du péché ou pas une conséquence du péché? Je n'en sais rien. Je serais porté à dire que non, moi. Mais je serais porté à dire que le péché a augmenté un déséquilibre. Parce que la colère de l'homme se répercute sur les animaux. Ça, c'est sûr. Ça, on voit tout de suite ça chez les chiens, on voit tout de suite ça chez les loups, on voit tout de suite ça. Il y a une répercussion. Il y a une répercussion. C'est pas étonnant, hein. Dans la grande famille, l'homme est roi. Et quand le roi est en colère, tout le monde tremble. N'est-ce pas? Ça peut pas être autrement. Alors, il y a forcément un tremblement. Ça devient quelque chose d'assez curieux, ce tremblement, hein. Nous avons de la peine à le comprendre. Mais il y a eu un tremblement, ce qui fait qu'à partir de l'orgueil, la colère augmente, l'irascible augmente. Et l'irascible de l'homme se répercute sur tous ceux qui sont autour de lui. Et donc que l'irascible des animaux soit intensifié, tout à fait d'accord. Ce qui explique comment des animaux tuent plus qu'ils ne mangent. Ce qui est royal, c'est tuer uniquement pour manger. Ça, c'est royal. Tandis que de tuer plus que pour manger, ça, c'est la conséquence du péché. Ça, chez les animaux, ça me semble très net, moi. Mais qu'il y ait de fait eu un ordre entre la vie végétative, la vie animale, et même à l'intérieur de la vie animale, un certain ordre que les... Ça ne nous gêne pas beaucoup. Je ne sais pas, peut-être que vous, ça vous gêne. Moi, ça ne me gêne pas beaucoup. S'il y a un ordre entre les animaux, et qu'on arrive à l'homme au sommet qui, lui, peut se servir de tout ce qui lui est inférieur. La vie n'est pas sacrée. Hein. Je me souviens, c'était le professeur Marois qui un beau jour m'avait dit, parce qu'il avait lancé l'Institut de la vie, alors il m'avait dit, la vie est sacrée. Alors j'ai dit, ah non. Si vous dites que la vie n'est pas sacrée, vous, elle était scandalisée, mais complètement scandalisée. Je dis non, je dis la vie de l'homme est sacrée, mais pas la vie de l'animal. La vie de l'homme est sacrée parce qu'il y a l'esprit. C'est l'esprit qui est sacré. Et sacré, ce qui est capable de remonter directement à Dieu. Ce qui n'est pas capable de remonter directement à Dieu n'est pas sacré. Il faut appeler les mots par leurs mots. Il faut essayer de saisir le sens propre des mots. Hein. Le sacré, c'est ce qui est en relation immédiate avec Dieu. C'est ce que les anciens appelaient divin. L'intelligence est divine. Notre volonté, notre cœur profond, spirituel, est divin. Ce qui peut remonter directement à Dieu. Le profane, c'est l'horizontal. C'est ce qui n'est pas directement relié à Dieu. Le commerce. Il n'est pas sacré. Sacré commerce, ça c'est quelque chose de particulier. Mais le commerce n'est pas sacré. Non, il n'est pas sacré le commerce, parce qu'il est horizontal. Tout ce qui est horizontal par rapport au niveau de l'homme dans sa sensibilité et au niveau politique n'est pas sacré. Le sacré, c'est ce qui est directement relié à Dieu. Alors, je crois qu'il y avait un ordre de sagesse de Dieu. Et cet ordre de sagesse de Dieu pouvait très bien permettre que les plus gros se nourrissent les plus petits. Pour mieux comprendre, c'est toujours ça qu'il faut essayer de saisir, pour mieux comprendre la royauté de l'homme sur l'univers. Tout est créé en fonction de l'homme et pour l'homme. Ça, je crois qu'on peut le dire. Tout est créé, tout notre univers est créé pour l'homme et en fonction de l'homme, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et que par là, on comprend mieux que l'homme est créé à l'image de Dieu. Alors, cet ordre a été vraiment détruit comme conséquence du péché. Alors ça, on peut le dire. Cet ordre même de l'univers, il est détruit à cause des conséquences du péché. Alors qu'il y ait des répercussions jusque dans le monde physique, c'est possible. Qu'est-ce qui nous dira les répercussions dans le monde physique aujourd'hui de certaines expériences qui se font dans notre univers? On ne le verra que très tard. On ne le voit pas tout de suite dans les causes, nous, parce que nous sommes... On les voit dans les effets. Mais je crois très fort qu'il peut y avoir une répercussion du monde, vous voyez, du monde animal sur le monde végétal, et une répercussion du monde végétal jusque dans le monde physique. Il n'y a pas d'impossibilité du tout, il y a une continuité. Il y a une continuité dans notre monde. Et donc, s'il y a un désordre au sommet, ce désordre peut se répercuter lentement, très lentement, mais il peut se répercuter. Alors, quelle est la valeur de ce désordre? Alors, je crois qu'on est dans l'incapacité de le dire. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire le comment des conséquences du péché. Vous voyez, alors il y a deux principes théologiques à maintenir. Que tout est ordonné à l'homme et que Dieu a voulu un ordre dans l'univers. Et que, alors, troisième principe, que Dieu aurait pu créer un univers plus parfait. Que Dieu a voulu cet univers particulier. Et il a voulu justement que nous comprenions qu'il pouvait réaliser un univers plus parfait pour qu'on découvre davantage la transcendance de la toute-puissance de Dieu. Alors, le péché est donc une rupture d'un ordre donné, et cette rupture d'un ordre donné a des conséquences dont nous ne pouvons pas mesurer jusqu'où ça peut s'étendre. Alors, je présume que cette petite phrase qui est dit, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, n'est-ce pas? C'est cette petite phrase que nous voyons. Elle prit de son fruit et mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Alors, avec elle, ça ne veut pas dire qu'au moment de la tentation, l'homme était là à côté de la femme en laissant la femme bavarder avec le serpent. Je ne crois pas. Avec elle, c'est parce que justement, elle est en communion avec lui, c'est évident. Ils sont les deux, vous voyez. Donc ça ne veut pas dire que la femme n'était pas seule en face du serpent, en face donc du serpent représentant le démon. Alors nous allons continuer. C'est le climat de Noël, n'est-ce pas la conséquence de la faute? Ça fait mieux comprendre ce que c'est que Noël. C'est l'arrière-fond, hein. C'est très vrai, c'est l'arrière-fond de Noël. L'arrière-fond de Noël, c'est les conséquences du péché. Alors ça fait mieux comprendre cette petite oasis merveilleuse de Noël. Une oasis au milieu de ce que représente le climat dans lequel, de fait, Jésus est venu. Et on voit très bien que c'est une petite oasis. La preuve, c'est qu'il y a eu Hérode après. Ça n'a pas duré très longtemps, hein. La paix merveilleuse de Noël. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça a été très très vite perverti par Hérode. Et ce qui montre bien que Jésus ne vient pas apporter en premier lieu une paix visible, mais une paix invisible. C'est la paix de notre cœur et de notre intelligence qu'il vient apporter. Parce que ça, c'est un des aspects, vous savez bien, les plus difficiles pour le peuple d'Israël d'accepter que Jésus est bien le Messie. Parce que pour eux, le Messie, c'est celui qui apporte l'arc-en-ciel. C'est-à-dire qui apporte la paix sur l'univers. Selon certaines prophéties d'Isaïe, selon certaines prophéties d'Ézéchiel, ce que nous appelons, nous, des prophéties eschatologiques. Mais eux mettent toutes les prophéties messianiques sur le même plan. Alors, mettant toutes les prophéties messianiques sur le même plan, le Christ, le Messie, doit apporter la paix. Et vous savez bien que la paix plénière est représentée justement dans le fait que le petit enfant est à côté du scorpion, que le scorpion ne pique pas le petit enfant. C'est merveilleux pour la crèche, hein. C'est ça, c'est étonnant. De voir le scorpion ne pique pas le petit enfant. Qu'à côté du lion, il peut y avoir la gazelle, il peut y avoir l'antilope. Le lion ne mange plus. C'est très beau comme symbolisme. Je trouve ça admirable comme symbolisme pour une communauté. C'est évident, ça. Voyez. Il y a des lions. Il y a des lions, il y a des antilopes. Il y a des chairs fines et il y a des chairs moins fines. On voit très bien. Ça. Et alors, normalement, on se mangerait. Vous savez bien ce que disait Huysmans, que pour lui, le signe le plus extraordinaire de la divinité de l'Église, c'était que des femmes arrivent à vivre en commun. Et on peut ajouter, et des hommes aussi, n'est-ce pas? Et c'est vrai, c'était pour lui le signe le plus extraordinaire. Il disait ça quand il passait devant les bénédictines à Paris, en disant, et elles sont là. Et ça continue, c'est extraordinaire, alors qu'il devrait y avoir une espèce de chalut là-dedans, invraisemblable. Eh bien non, elles sont là et elles ont l'air d'être en paix. C'est puisque c'est Pax, la devise bénédictine Pax, elles sont en paix. C'est vrai, on oublie trop que c'est quand même un chef-d'œuvre de la grâce de faire que on puisse vivre ensemble en paix. Une perlative, vous allez me dire, c'est évident que c'est une perlative, c'est évident. Il y a des petits orages le soir, quand il a fait trop beau le matin, alors il y a un petit peu trop de condensation d'eau, et alors ça fait des choses comme ça. Alors il y a toujours un petit peu, un petit drame latent, mais il y a quand même une paix dans le cœur. Et la paix du cœur demande de rayonner à l'extérieur, mais pas pleinement. Tant qu'on est sur la terre, pas totalement. La vie commune n'est pas le retour à l'Éden. Si la vie commune était le retour à l'Éden, je vous affirme que ça ferait une propagande monstre et que tout le monde viendrait en disant « Entrez ici, vous entrez dans le paradis terrestre. » C'est extraordinaire, ici il n'y a que de la paix, il n'y a que des sourires, il n'y a que de la joie. Il n'y a qu'une entente merveilleuse. On pédale tous du même pas. On a tous une espèce de c'est extraordinaire. Un socialisme réalisé d'une manière absolue et parfaite. On est tous à l'unisson. Non, c'est pas ça. Noël n'apporte pas, voyez, la paix ultime et dernière. Nous disons, nous, que c'est le retour du Christ. Et vous voyez, c'est là où, entre avec Israël, il y a le point de vue qui est très important à saisir, de divergence, parce que pour eux, le Messie devrait immédiatement apporter cette paix sur la terre. Et l'Église, dans la lumière du mystère de la croix et de la résurrection, Dans la lumière de ce que Jésus dit dans le mystère de l'Ascension, l'Église fait le discernement entre les prophéties douloureuses que Jésus a accomplies et les prophéties glorieuses, ultimes, qu'il n'accomplira que dans son retour. Et je crois que ça, c'est très important à bien saisir. Alors, voyons, si vous voulez, la toile de fond de Noël. C'est la toile de fond de Noël que nous voyons maintenant. La toile de fond de Noël, c'est les gros nuages noirs qui viennent comme conséquence du péché. C'est la toile de fond. Alors, on voyait cette chose très étonnante. Je reprends. Ils entendirent le bruit des pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin. À la brise du jour, ils se cachèrent, l'homme et sa femme, de devant Yahvé Dieu, parmi les arbres du jardin. Donc, la peur, conséquence du péché. La peur de Dieu, la crainte, mais pas une crainte chaste et aimante. C'est la peur en face du gendarme. C'est Dieu gendarme. À partir du péché, on considère que Dieu devient un gendarme. Yahvé Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» C'est merveilleux, n'est-ce pas, comme anthropomorphisme. Dieu sait très bien où est Yahvé. Oui. Mais c'est pour nous montrer qu'à cause du péché, l'homme s'est fermé à Dieu. Et Dieu est obligé de l'appeler. De l'extérieur. Alors qu'avant, non, il y avait une présence. La faute naît comme, si vous voulez, comme un éloignement. On pourrait dire que la faute naît comme une distance entre le cœur de l'homme et Yahvé, entre le cœur de l'homme et Dieu. La faute met cela, il y a une distance qui se crée entre les deux. Alors que sans la faute, tels qu'ils étaient avant dans l'état de grâce, il y avait une présence et Dieu regardait tout de l'intérieur. On reverra ça à propos du symbolisme de la tour de Babel. On reverra exactement la même chose, c'est pour ça que c'est important. Quand des symbolismes sont répétés comme ça, il faut les saisir. Yahvé appela l'homme, on appelle de l'extérieur, hein, et lui dit « Où es-tu ?» Par le péché, l'homme est loin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, mais c'est l'homme qui s'est éloigné de Dieu. Il dit « J'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Il a peur de paraître en face de Dieu dans sa nudité. Parce que de fait, à cause du péché, il s'est regardé lui-même et a vu sa nudité. Ce serait intéressant pour comprendre le point de vue de l'angoisse. Parce que je crois que c'est ça l'angoisse. Hein. C'est quand on se voit dans sa nudité. Au sens le plus fort, hein. Il y a deux nudités, hein, je vous l'ai déjà dit, il y a deux nudités. Il y a la nudité première qui est la beauté et la nudité seconde qui est l'abîme. Très curieux ça. Et c'est important de voir de fait ces deux nudités. Dans le langage symbolique de l'écriture, hein, avant la faute, ils sont nus sans honte. Après la faute, face à Dieu, ils n'osent pas paraître en face de Dieu parce qu'ils sont nus. Vous voyez ? Donc, on voit bien que la nudité est prise ici dans deux sens différents. Le point de vue premier, qui est la simplicité la plus grande dans l'amour. Et le second point de vue, c'est l'abîme qui s'est créé entre l'homme et Dieu. Il dit, « Qui t'a appris que tu étais nu ?» Donc c'est cette seconde nudité, elle s'apprend par le péché. On s'est séparé de Dieu dans l'orgueil, alors on est seul. Vous voyez, c'est l'isolement. Ce n'est pas la solitude contemplative, mais c'est l'isolement. On s'isole, on se sépare de Dieu. Qui t'a appris que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ? Yahvé, c'est très bien ça. Mais il veut que l'homme avoue sa faute. L'homme dit, c'est la femme qui t'a placé près de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Donc, l'autre conséquence du péché, c'est que par rapport à ses frères, on est incapable de porter la responsabilité de ses actes. Et c'est vraiment ce serait intéressant de voir les conséquences successives, les ébranlements successifs que réalise la faute. Par rapport à Dieu, par rapport au prochain. Par rapport à Dieu, l'isolement, on a peur de Dieu. Juste l'inverse de la contemplation. C'est l'anti-contemplation. Ça, on peut dire. Le péché crée cette attitude d'anti-contemplation. Et le péché crée, par rapport à ceux qui sont proches de nous, l'anti-charité fraternelle. Et l'anti-charité fraternelle se traduit de cette manière, c'est que l'homme devient rival de la femme et la femme devient rival de l'homme, et l'homme et la femme sont incapables de porter leurs responsabilités. Comme conséquence du péché, on est incapable. Et par le fait même qu'on est incapable de porter sa responsabilité, on la fait porter sur les autres. C'est la femme que tu as placée près de moi. Mais c'est juste l'inverse de l'amour. Dieu a créé un lien d'amour entre Adam et Ève. Et l'anti-charité fraternelle se traduit de cette manière, c'est que l'homme devient rival de la femme et la femme devient rival de l'homme, et l'homme et la femme sont incapables de porter leurs responsabilités. Comme conséquence du péché, on est incapable. Et par le fait même qu'on est incapable de porter sa responsabilité, on la fait porter sur les autres. C'est la femme que tu as placée près de moi. Mais c'est juste l'inverse de l'amour. Dieu a créé un lien d'amour entre Adam et Ève, et alors le péché met tout de suite un abîme. C'est le double abîme. Et c'est ça l'angoisse. Angoisse à l'égard de Dieu, angoisse à l'égard de l'homme. Yahvé Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme dit, « C'est le serpent qui m'a dupé et j'ai mangé. » Non, c'est le serpent qui m'a séduit, qui m'a dupé, qui m'a trompé, quoi. Donc c'est le mensonge qui est entré dans le cœur de la femme. Et j'ai mangé. Donc j'ai désobéi. C'est ça que ça veut dire, symboliquement. Alors ce serait très curieux, c'est de voir comment ces symbolismes du péché se traduisent par le point de vue de la nourriture. Vous voyez, la philosophie du vivant. Ce serait très intéressant de voir ça. Parce qu'il y a une raison, hein. On est en face d'un grand symbolisme, d'un symbolisme divin qu'il faut essayer de comprendre. Ce symbolisme a une signification. Ce n'est pas pour rien que le symbolisme du péché se traduit par le point de vue de la mendication. Parce que c'est vrai, on dit que c'est l'orgueil, on dit que c'est le retour sur soi. Pourquoi se traduit-il par le point de vue de manger ? Alors, parce qu'un langage symbolique est toujours dans l'ordre sensible, hein. Or, quelle est l'opération la plus proche de nous? On l'a dit l'autre jour en philosophie du vivant, c'est la respiration. Mais la respiration n'implique pas de tentation, c'est curieux ça, c'est la nourriture. Parce que la respiration est quelque chose de fondamental et de premier, alors il peut y avoir des répercussions du péché sur la respiration, l'angoisse qui nous empêche de respirer. Mais c'est à l'égard de l'aliment. Pourquoi ? Parce que l'aliment, on le choisit. Tandis qu'il n'y a pas de choix par rapport à l'oxygène que vous respirez. Évidemment, vous pouvez choisir d'être dans une altitude, là, vous respirez mieux que dans les marécages de la mer morte, hein. Non, là, on respire plus difficilement. Tandis que dans les altitudes, on respire mieux. Alors, on pourrait dire qu'il y a un certain choix, mais il n'y a pas de choix au point de départ, hein. Tandis que l'aliment, très vite, fait objet de choix. Et je crois que c'est à cause de ça. Un choix très fondamental qui touche au point de vue de la vie. Puisque l'aliment permet la vie. Donc c'est à travers l'aliment qu'on empoisonne les gens. Il ne faut pas l'oublier. C'est à travers l'aliment qu'on empoisonne les gens. Et c'est à travers l'aliment qu'au contraire on leur permet de survivre. Alors il y a le lien, il y a le serpent. C'est bien évident que le serpent c'est le poison. Et c'est le mensonge. Et c'est ça qui empoisonne. Et c'est très vrai, quand vous êtes en face d'un mensonge perpétuel, tout est empoisonné, vous ne pouvez plus savoir si la nourriture est bonne ou mauvaise. La femme dit, c'est le serpent qui m'a menti. et j'ai mangé. Yahvé dit au serpent. Alors ici, nous allons voir l'arrière-fond. C'est celui-là. Ce sont les conséquences du péché qui sont les peines. Dieu va imposer des peines comme conséquence du péché. C'est le mystère de la justice de Dieu. Le mystère de la justice de Dieu, c'est de montrer d'une manière très nette les conséquences du péché. Dieu punit en premier lieu le serpent, parce que c'est lui le plus coupable. C'est lui le plus coupable. Et donc Dieu regarde d'abord le plus coupable. Le plus coupable, c'est le serpent, puisque c'est lui qui a eu l'initiative. On est toujours beaucoup plus coupable quand on prend l'initiative. L'initiative de l'orgueil. Hein. Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les animaux. Alors, encore un langage très symbolique, hein. C'est bien évident. Mais un symbolisme divin. Faisons attention, hein. ne traduisons pas ça en un symbolisme poétique. Mais un symbolisme divin. Le symbolisme divin, c'est toujours de montrer qu'il y a une réalité. Le symbolisme divin implique un jugement d'existence. À la différence du symbolisme poétique qui s'appuie sur l'imaginaire. Et le symbolisme divin implique tout ça. C'est ça qu'on oublie aujourd'hui dans l'herméneutique qu'on fait des symbolismes de l'écriture ou des mythes de l'écriture. On oublie que le symbolisme divin a toujours un lien avec l'existence. Parce que Dieu nous apprend quelque chose de réel par ce symbolisme, apprend quelque chose d'actuel. Et c'est pour ça qu'il implique un jugement d'existence. Mais évidemment, c'est symbolique, donc il ne faut pas prendre matériellement. Prendre matériellement, ce serait complètement stupide. Du reste, le serpent, vous voyez bien, ce serait aussi complètement stupide de savoir, de dire que le démon s'est mis dans le serpent. Mais il ne pouvait pas. Valde bonum, tout était bon. Même le serpent. Il était bon, le serpent. Donc, c'est uniquement une projection après. C'est parce que le serpent, de fait, apparaît pour nous comme un animal que nous n'aimons pas beaucoup, n'est-ce pas, dont nous avons une certaine aversion, et c'est pour ça que le symbolisme du serpent joue ce rôle. Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre toutes les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Sur ton ventre, tu marcheras. C'est bien évident qu'avant la faute, le serpent marchait sur son ventre. Ça, c'est bien évident. Il n'y a rien eu changé. C'est resté le même, ça. Mais c'est devenu symbolique. Voilà le changement. C'est devenu exactement comme le tremblement de terre. C'est devenu symbolique. Et alors là, il peut y avoir une espèce de regard divin sur certaines choses qui auraient pu très bien arriver purement naturellement, mais qui de fait prennent une valeur différente. Alors ici, sur ton ventre, tu marcheras et poussière, tu mangeras tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te visera à la tête et toi, tu la viseras au talon. Alors, je prends par le terme, hein. C'est plus facile à comprendre. Donc, première affirmation comme conséquence du péché, la conséquence du péché va jusqu'au démon, au diable, à Lucifer. Ça va jusque-là. Et c'est lui qui, en premier lieu, reçoit une nouvelle punition. Une punition par rapport à la femme et par rapport au cosmos. Si la faute de l'ange a eu lieu avant, ce qui est bien montré à travers toute l'Écriture, avant l'apparition de l'homme, avant la création de notre monde physique, la première conséquence du péché, c'est que Lucifer perd sa grâce originelle. Il perd sa finalité. Il perd sa capacité de contempler et devient uniquement celui qui se replie sur lui. Je crois qu'à partir de la faute, Lucifer devient un intellectuel. C'est ce que je pourrais dire. Il invente la dialectique angélique. Hein. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'avant, il est dans la contemplation. Et la contemplation angélique est évidemment au-delà de la dialectique. Tandis que c'est le repliement de l'intelligence sur elle-même qui est source de la dialectique. Hein. C'est ça, la dialectique. C'est le repliement de l'intelligence sur elle-même. Or, la conséquence immédiate du péché, c'est le repliement de l'intelligence sur elle-même. C'est une intelligence qui n'est plus en quête de vérité, c'est une intelligence qui est en quête uniquement d'originalité, c'est-à-dire de l'extension. Ça, c'est la première conséquence du péché. La seconde conséquence du péché, c'est après la faute de l'homme, où Lucifer a joué ce rôle. Alors, Dieu va mettre une inimitié entre Lucifer et la femme. Pourquoi ? Parce que la femme a été complice. Dieu vient séparer ce que le péché a uni. Et Dieu va mettre cette inimitié, cette opposition entre le dragon et la femme. Alors, on voit très bien ce qui est annoncé dans l'Apocalypse. Cette inimitié. Le dragon est face à la femme. Totalement extérieur, hein, face à la femme, dans un état d'inimitié, c'est-à-dire dans un état de colère à l'égard de la femme, dans un état d'opposition, de rivalité. Les deux extrêmes, hein, on pourrait dire, vous voyez, dans les deux extrêmes, ça ne veut pas dire que le démon est nécessairement l'ange supérieur, non. On ne sait pas, hein, quelle est la dignité angélique du démon. Parce qu'il a gardé sa dignité angélique, au point de vue ontologique. N'est-ce pas ? Il a gardé sa dignité. Alors, quelle est sa dignité ? Ça, c'est très difficile, on ne peut pas le savoir. Ce qui est sûr, que ce n'est pas l'ange dernier, mais ce n'est pas non plus l'ange premier. Alors, il y a cette espèce d'opposition que Dieu crée entre le dragon, entre le serpent, donc entre Lucifer et la femme. Et ce qui est plus net, c'est entre la postérité de la femme et la postérité du démon. Entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme relève de la fécondité. La postérité du démon relève de l'efficacité. Puisqu'il n'y a pas de fécondité dans le démon. Il n'est pas père. Il le voudrait bien. C'est pour ça qu'il veut supprimer la paternité. C'est pour ça qu'il veut supprimer la maternité. Parce que ça, il ne peut pas le sentir. Il ne peut pas sentir la paternité. Il ne peut pas sentir qu'une créature puisse être père. Il ne peut pas sentir qu'une créature puisse être mère. Parce que ça, c'est de l'ordre de la fécondité. Il ne peut pas sentir qu'il puisse y avoir, à l'intérieur des créatures, un lien de fécondité. Il en a horreur de ça. Pour lui, il ne peut y avoir qu'un ordre d'efficacité. La postérité du démon, ce n'est pas du tout une fécondité, c'est un détournement. Le démon détourne de la finalité et fait croire que c'est ça l'importance. Et alors, cette lutte, parce que cette inimitié implique une lutte, celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, te visera à la tête. C'est toute la postérité de la femme. Alors c'est évidemment la postérité de la femme, c'est en premier lieu, nous le savons bien, la postérité de la femme en premier lieu, ce sera Jésus, ça c'est sûr. Mais c'est toute l'Église, c'est tous ceux qui sont liés à la postérité de la femme. Celle-ci te visera à la tête. La tête du démon, c'est l'orgueil. Donc, elle te visera à la tête. Elle démasquera l'orgueil du démon. Le rôle de Jésus, c'est de démasquer l'orgueil du démon. Et c'est notre rôle propre. Et toi, tu la viseras au talon. Quand on vise au talon, c'est quelqu'un qui poursuit. Et le talon, c'est par où nous touchons le sol de la terre. C'est donc par où nous restons corruptibles. C'est par où nous restons capables de toute espèce de maladie, de corruptibilité. C'est par où on est corruptible. Et c'est là où le démon attaquera. Il attaque donc par la corruptibilité. Et la femme, au contraire, regardera, elle sera attentive à l'orgueil. Vous voyez, cette espèce de lutte extraordinaire, hein, entre les deux. Et je crois que pour bien la comprendre, il faut regarder tout de suite l'Apocalypse. Je ne le fais pas maintenant, mais je renvoie à l'Apocalypse. Parce que c'est dans l'Apocalypse qu'on voit le mieux comment, de fait, le dragon vise la femme au talon. Dans sa poursuite au désert. Et comment elle-même va au désert, et c'est en allant au désert qu'elle le vise à la tête. Pourquoi ? Parce que le désert, c'est le primat de l'amour. Et c'est par le primat de l'amour qu'on démasque l'orgueil. Donc, la lutte est premièrement entre la femme et le serpent, la femme et Lucifer. C'est là où la lutte prend toute sa signification. Mais il y a encore une autre lutte. C'est la lutte à l'égard de l'univers. Maudit sois-tu entre tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Alors vous voyez qu'ici, Dieu montre que normalement, tous les animaux, toutes les bêtes des champs sont ordonnés à l'homme et sont pour l'homme. L'homme ayant perdu sa dignité, son dominium absolu, il va y avoir une possibilité d'action du démon sur notre univers, sur les animaux. Et cette action va se traduire dans une malédiction. Une malédiction de Lucifer. Malédiction qui fait qu'il descendra plus bas que tous les animaux. Lui, le vivant, spirituel, va perdre son caractère spirituel à cause de son orgueil. Et dans son orgueil, il devient celui qui est maudit, c'est-à-dire considéré comme rien, comme le dernier des animaux. Sur ton ventre, tu marcheras. Et c'est ça que ça veut dire, hein, c'est le dernier des animaux. Il reste un vivant, c'est bien évident, il n'est pas pétrifié en pierre. Dieu aurait pu le faire, mais Dieu respecte sa vie. Dieu ne supprime pas sa vie. Mais il est le dernier des vivants. C'est un vivant qui ne vivra que pour lui. C'est ça le propre de l'orgueil. L'orgueil fait qu'on ne vit que pour soi. On est dans cette attitude réflexive sur soi et on ne vit que pour soi. Et c'est pour ça que la vie végétative, là encore, apparaît très fort. Hein. La vie végétative et la vie animale apparaît tout de suite pour nous faire comprendre comment cet être spirituel est réduit au dernier degré de la vie animale. Sur ton ventre, tu marcheras et poussière, tu mangeras. Plus de verdure, hein. Mais poussière, tu mangeras. C'est même la respiration, hein. C'est du côté de la respiration, le démon. Donc c'est l'aspect le plus fondamental de la vie qui est le repliement sur elle-même. Et c'est vrai, c'est ça la condamnation du démon, c'est qu'il est replié sur lui-même et qu'il est dans une vie qui est la vie la plus vile qui soit. Dans la mesure où on est replié sur soi, et qu'il n'y a plus que ce repliement, alors à ce moment-là, poussière, tu mangeras tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de salut pour le démon. Contrairement à ce que certains peuvent dire aujourd'hui. Il n'y a pas de salut. Pourquoi qu'il n'y a pas de salut? Parce que la faute du démon est une faute d'orgueil, et le démon ne s'avouera jamais vaincu. C'est le propre de l'orgueilleux. L'orgueil ne s'avoue jamais vaincu. On sait très bien ça. Et qu'à regarder ça chez un gosse. Parce que le gosse manifeste tout de suite son orgueil. Nous, nous faisons grande attention. Nous la cachons, notre orgueil. Tandis que le gosse, il le montre. Or, il n'avoue jamais qu'il est vaincu quand un gosse est un peu orgueilleux. Sur ton ventre, tu marcheras et poussière, tu mangeras tous les jours de ta vie. Tous les jours. On ne dit pas éternellement, mais tous les jours de ta vie. Parce qu'il n'est pas dans l'éternité, puisqu'il a quitté la grâce. Il a quitté la contemplation. Mais tous les jours de sa vie. Donc, nous voyons comment le démon va être lié en opposition avec notre univers de vie végétative, de vie animale. Et qu'il descend plus bas que tout ce que nous pouvons voir comme conséquence du péché. À la femme, il dit, je multiplierai ta peine et tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Vers ton mari, tu iras ton désir, et lui dominera sur toi. Et à l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Maudit soit le sol à cause de toi. Dans la peine, tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Ce sont des épines et des chardons qu'il fera germer pour toi. Et tu mangeras l'arbre, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ton retour au sol. Car de lui, tu as été pris, car poussière tu es, et à la poussière, tu retourneras. Vous voyez le rôle de la poussière, hein, très important par rapport au serpent et par rapport à l'homme.